Épilogue. Voir la réponse. Rand glissa sur son sang. Incapable d'y voir, il portait quelque chose de lourd, un corps, et il titubait dans le tunnel. « Ça se ferme, » pensa-t-il. « Oui, ça se ferme. » La voûte s'abaissait comme une mâchoire supérieure, la pierre grinçant contre la pierre. De justesse, Rand émergea à l'air libre, au sommet où la gueule du mont Chagolgul claquait des dents. Rand faillit trébucher. Ce corps était si lourd. Une nouvelle fois, il glissa. Soudain, sa vision s'améliora un peu, juste assez pour voir une silhouette agenouillée près de lui.
« Oui, »
murmura une femme dont il ne reconnut pas la voix.
« Oui, c'est très bien, exactement ce que tu dois faire. »
Rand cligna des yeux pour mieux voir. Des vêtements à Yel? Oui. Et une vieille femme aux cheveux blancs. Elle recula et il tendit la main, car il ne voulait surtout pas être seul. Il avait bien trop envie de s'expliquer devant quelqu'un.
« Je vois la réponse à présent. Au Aelfin, j'ai posé la mauvaise question. Choisir, c'est notre destin. Quand on n'a pas le choix, on n'est pas du tout un homme, juste une marionnette. »
Des cris retentirent. Se sentant soudain très lourd, Rand sombra dans l'inconscience. Au milieu de la brume de Machadar qui se consumait et se dissipait autour de lui, Matt se tenait bien droit. Sur le sol, par dizaines, gisaient des cadavres de Trollocs à la peau cloquée. Levant la tête, le jeune flambeur, au-delà des dernières volutes de brume, repéra directement l'astre du jour.
« Eh bien, c'est beau à voir. Tu devrais te montrer plus souvent, l'ami. Tu es plutôt pas mal. »
Matt sourit puis baissa son œil unique sur la dépouille à ses pieds. Padan Fane ressemblait à un fagot de brindilles et de mousse, la peau dégoulinant de ses os. La noirceur de la dague s'étendant à toute sa peau flétrie, il puait la charogne. Matt faillit s'emparer de l'arme, mais il s'en abstint.
« Un pari que je ne vais pas accepter pour une fois. »
Se détournant du mort, il s'éloigna. Après trois pas, il avisa son chapeau. Ravi, il le ramassa, le vissa sur sa tête et reprit son chemin en sifflant, sa lance sur l'épaule. Dans sa tête, les dés ne roulaient plus. Derrière lui, la dague, avec son rubis, se fondit dans la masse informe qui avait été Padan Fane. Dans le camp dressé à la hâte au pied du mont Chagolgul, après la fin des combats, Perrin marchait d'un pas là. Tombant la veste, il ouvrit sa chemise et savoura le contact de l'air sur sa peau nue. Puis il glissa Mahaleinir dans son fourreau. Un bon forgeron ne négligeait jamais ses outils, même s'il lui semblait parfois, en les portant, qu'il finirait par l'entraîner dans sa tombe. Il se sentait capable de dormir 100 ans de suite, mais pas maintenant, pas encore. Fail.
Non.
Au plus profond de lui, il était sûr de devoir affronter quelque chose d'horrible au sujet de sa femme. Mais c'était encore trop tôt. Pour le moment, son inquiétude, non, son angoisse, il la tenait à distance. Partout, les derniers esprits de loup s'en retournaient dans le rêve.
« Adieu, jeune taureau. Trouve ce que tu cherches, jeune taureau. Cette chasse est terminée, mais il y en aura d'autres, jeune taureau. »
Perrin avançait entre des rangées de blessés, soldats et Aiel confondus, qui célébraient la défaite de l'engeance du démon. Sous les tentes, on entendait des gémissements mêlés aux cris de joie. Dans la vallée de Takandar, maintenant luxuriante, des hommes et des femmes de toutes les nations couraient en tous sens, certains en quête de blessés et d'autres simplement fous de joie, quand ils retrouvaient des camarades qui, comme eux, avaient survécu à cet enfer. Un Aiel interpella Perrin.
« Forgeron, joins-toi à nous !»
Le jeune seigneur déclina l'invitation. Méfiant, il étudia les gardes. Restait-il assez vigilant pour réagir si un Myrdral ou un Drakkar survivant tentait de se venger d'une cruelle défaite? Sans surprise, au centre du camp, il avisa une grande tente entourée de défenseurs de la pierre. Qu'était-il advenu de Rand? Dans sa tête, il ne vit ni couleur ni image du dragon. Et plus rien ne l'attirait dans une direction ou une autre. De très mauvais signes, tout ça. Passant entre les gardes, il entra sous la tente. Comment avait-on pu dénicher un quasi-pavillon sur ce champ de bataille où tout avait été brûlé et rebrûlé? À l'intérieur flottait une bonne odeur de simple, et des tentures improvisées divisaient l'espace en petits compartiments.
J'ai tout tenté,
dit une voix étouffée, celle de Dameur Flynn.
Rien ne peut changer ce qui doit être. Il...
Perrine se faufila entre Ninevé et la chamane, agenouillée à côté d'une civière. Toilettée de frais, vêtue de neuf, Rand y gisait, les yeux fermés. Également agenouillée, Moiraine murmurait à l'oreille du dragon des mots que seule Perrine fut capable d'entendre.
« Tu t'en es très bien tiré, Rand. Très bien tiré. »
D'un revers de la main, Perrine essuya la sueur qui ruisselait sur son front.
« Il est vivant ?»
demanda-t-il.
« Perrine !»
s'exclama Ninevé.
« Tu es affreux, mon pauvre garçon. Assieds-toi, espèce de grand bœuf, sinon tu vas t'écrouler. Je ne veux pas devoir m'occuper de vous deux en même temps. »
Les yeux rouges de l'ancienne sage-dame en disaient plus long qu'un discours.
« Il agonise, c'est ça ?»
demanda Perrine.
« Vous l'avez sorti du tunnel, mais il mourra quand même. Assis !»
ordonna Ninevé en désignant un tabouret.
« Les chiens obéissent à cet ordre, Ninevé, pas les loups !»
Perrine s'accroupit et posa une main sur l'épaule de Rand.
« Tu ne m'appelles plus, et je ne vois plus d'image de toi. Parce que tu n'es plus un taverne. Et moi non plus, je pense. « As-tu envoyé chercher les trois ?»
demanda Perrine.
« Je veux dire, Mine, Elaine et Avienda. Elles doivent le voir une dernière fois. C'est tout ce que tu trouves à dire ?»
grinça Ninevé. Perrine leva les yeux sur elle. À la façon dont elle croisait les bras, on nous dit qu'elle se soutenait pour ne pas tomber, ou pour s'empêcher de pleurer.
« Qui d'autre est mort ?»
demanda le jeune seigneur. À l'expression de Ninevé, ce n'était pas son premier deuil.
« Egwen. »
Perrine ferma les yeux et soupira. « Egwen, par la lumière. »«
Tous les chefs-d'œuvre ont un prix, »
songea-t-il.
« Ça ne signifie pas qu'on doit s'abstenir de forger. »
Pourtant, Egwen...
« Tu n'y es pour rien, Ninevé, »
dit Perrine en ouvrant les yeux.
« Bien sûr que je n'y suis pour rien. Je le sais, espèce de tête de linotte. »
Sur ces mots, la sœur se détourna de Perrine. Il se leva, l'enlaça et lui tapota gentiment le dos.
« Je suis désolé. Je l'ai laissé pour te protéger, Rand. Si je t'ai accompagné, c'était pour veiller sur toi. Et tu l'as fait, Ninevé. Grâce à toi, il a pu accomplir ce qu'on attendait de lui. »
Ninevé éclata en sanglots. Perrine respecta son chagrin et versa même quelques larmes. Se dégageant après quelques minutes, l'ancienne sage-dame sortit en trombe de la tente.
« J'ai tout essayé, »
répéta Flynn, désespéré.
« Et Ninevé aussi. Ensemble, nous avons même travaillé avec l'Angréal de Moiraine. Rien n'y a fait. Personne ne sait comment le sauver. »«
Tu as lutté de ton mieux, »
souffla Perrine. Il jeta un coup d'œil dans le compartiment d'à côté, où un autre homme gisait sur une civière.
« Que fait-il ici ? »
demanda-t-il.
« Nous les avons trouvés tous les deux. » Rand a dû le porter hors de la grotte. Nous ignorons pourquoi il a voulu sauver un rejeté, mais ça n'a aucune importance, parce qu'il est perdu, lui aussi. Tous les deux agonisent.
« Il faut envoyer chercher Mine, Elaine et Avienda, »
répéta Perrine.
« Ont-elles survécu toutes les trois ?»«
Layel a pris des coups, »
répondit Flynn.
« Elle est entrée en titubant dans le camp, à demi portée par une Aes Sedai très laide qui avait ouvert un portail pour elle. Elle vivra, » mais je ne suis pas sûr qu'elle remarchera dans les années à venir.
Il faut prévenir ces femmes, toutes les trois. »
Flynn acquiesça, et Perrine sortit pour rattraper Ninevé. Une fois dehors, il découvrit ce qu'il avait espéré. Aussi mal en point que lui, l'âne la serrait dans ses bras. Les deux hommes se regardèrent et hochèrent la tête.
Plusieurs régentes des vents ont ouvert un portail entre ici et le champ de Merilor,
dit l'âne au jeune seigneur.
Le ténébreux est de nouveau emprisonné. Les terres dévastées refleurissent, et on peut aussi y accéder via un portail.
« Merci, »
dit Perrine en s'éloignant.
« Quelqu'un a eu des nouvelles de Feil ?»«
Non, forgeron. Le seigneur du corps l'a vu le dernier, mais elle l'a quitté pour attirer les Trollocs loin de lui. Désolé. »
Perrine hocha la tête. Il avait déjà parlé avec Matt et Olver, mais il avait... eh bien... éviter de penser à ce qui avait pu se passer.
« Continue à ne pas y songer, »
se dit-il.
« Ne t'y risque pas !»
Mobilisant sa force mentale, il se mit en quête du portail dont l'âne avait parlé.
« Excusez-moi, »
demanda Loyal aux promises assises près de la tente.
« Avez-vous vu Matrim Cotton ?»«
De Luskaï ?»
proposa une des aïelles rigolarde en tendant sa gourde.
« Non, non, »
répondit Loyal.
« Je dois voir Matrim Cotton et recueillir son témoignage sur la bataille. Tant qu'il est frais, vous comprenez ? Il faut que tous les témoins me disent ce qu'ils ont vu et entendu afin que je le consigne par écrit. Il n'y aura jamais un meilleur moment. »
De plus, Loyal avait envie de voir Matt et Perrine pour s'assurer qu'ils allaient bien. Mais ça, il ne le criait pas sur tous les toits. Après tous ces événements, il s'inquiétait pour ses amis, surtout avec ce qui était arrivé à Rand. L'aïel, plus qu'éméché, le gratifia d'un sourire d'ivrogne. Il soupira puis reprit son chemin à travers le camp. La nuit tombait déjà, le dernier jour de l'ultime bataille. On était dans le quatrième âge à présent, pas vrai? En supposant qu'un âge puisse commencer au cours d'une journée. Pour le calendrier, ce serait un sacré casse-tête, non? Pourtant, tout le monde s'accordait à le dire. Rand avait scellé la brèche à midi précis. Loyal continua à explorer le camp, toujours dressé au pied du mont Shayolghul. Selon Nineveh, Rand allait trop mal pour qu'on le déplace. Jetant un coup d'œil dans chaque tente, Loyal finit par trouver le vieux général Ithurald, entouré par quatre Aes Sedai.
« Enfin, » dit-il, « toute ma vie j'ai servi les rois de l'Arad-Doman. Des serments, j'en ai prêté plus d'un. »
« Al-Salam est mort, »
lâcha Saïrin Sedai, debout près d'un siège.
« Quelqu'un doit occuper le trône. »«
Au Saldaïa, la confusion règne, »
ajouta Elswell Sedai.
« Avec le lien entre ce royaume et Andorre, la succession est un problème. L'Arad-Doman ne peut pas se permettre d'être privé d'un chef. Tu dois prendre le pouvoir, Rodal Ithurald. Et vite !»«
Le conseil des marchands !»«
Tous ses membres sont morts, ou ont disparu dans la nature, »
dit une autre sœur.
« Certes, mais j'ai prêté des serments. »
« Et qu'aurait fait ton roi ?»
demanda Yukiri.
« Laisser le royaume se désintégrer ? Tu dois être fort, seigneur Ithurald. En des temps pareils, un pays a besoin d'un guide. »
Loyal recula et secoua la tête, désolé pour le pauvre homme. Quatre Aes Sedai sur le dos. Avant la fin de la journée, il serait couronné, ça ne faisait pas un pli. Loyal s'arrêta de nouveau près de la tente principale où on soignait les blessés. Là, il s'enquit de nouveau de Matt. Il avait bien été sur ce champ de bataille et des gens affirmaient l'avoir vu indemne et souriant. Mais Loyal avait besoin de lui parler, d'être sûr. Sous la tente, l'ogier dut se baisser afin que sa tête ne touche pas le plafond. Pour son peuple, un pavillon humain était un tout petit endroit. En passant, il jeta un coup d'œil à Rand, qui semblait encore plus mal au point qu'avant. Adossé à la paroi, l'âne arborait une couronne, un simple bandeau d'argent, là où il portait d'habitude son adori. En soi, ça n'avait rien de surprenant, mais voir Nineveh avec un bijou similaire intrigua l'ogier.
« C'est injuste !»
souffla la sœur.
« Pourquoi doit-il mourir alors que l'autre va mieux ?»
Nineveh semblait bouleversée. Elle avait encore les yeux rouges, mais comme elle enguirlandait quiconque le mentionnait, Loyal n'en dit pas un mot. Très souvent, les humains semblaient vouloir qu'ils se taisent. Étrange pour des gens qui vivaient si peu de temps et sans cesser de s'agiter. Nineveh regarda l'ogier qui la salua de la tête.
« Loyal, où en sont tes recherches ?»«
Pas très loin. Perrine m'ignore et Matt est introuvable. »«
Ton récit peut attendre quelques jours, bâtisseur, »
dit l'âne. Loyal ne le contredit pas. Après tout, c'était un roi désormais. Cela posé, non. Les témoignages ne pouvaient pas attendre. Il devait être frais pour que son livre soit d'une parfaite précision.
« C'est terrible !»
dit Flynn, les yeux rivés sur Rand.
« Mais, Nineveh Sedai, c'est étrange. Aucune des trois ne semble s'en faire. Ne devrait-elle pas être plus inquiète ?»
Loyal s'en fut, mais il alla voir Avienda. Assise sur une chaise, elle regardait plusieurs femmes s'occuper de ses pieds mutilés. Dans l'affaire, elle avait perdu des orteils. La jeune aïelle salua Loyal de la tête. Apparemment, on l'avait débarrassée de la douleur, car elle semblait fatiguée, certes, mais rien de plus que ça.
« Matt ?»
demanda l'ogier, plein d'espoir.
« Je ne l'ai pas vu, Loyal, fils d'Aren, fils de Alan. Rien de nouveau depuis la dernière fois que tu m'as posé la question.
Loyal s'empourpra, puis il se retira. En s'éloignant, il croisa Elaine et Mine. Ils recueilleraient leurs témoignages, mais ceux des trois tavernes étaient plus importants. Pourquoi les humains s'agitaient-ils toujours, sans prendre le temps de marquer une pause? Leur arrivait-il de réfléchir? Quand même, c'était un jour important. Cela dit, il y avait quelque chose de bizarre. Mine et Elaine n'auraient-elles pas dû être au chevet de Rand? Tandis que la jeune reine écoutait des rapports sur les pertes humaines ou l'approvisionnement des réfugiés, Mine contemplait le mont Shayolghul, l'air détaché de tout. Ces femmes n'avaient-elles aucune envie de tenir la main de Rand pendant qu'il glissait vers la mort?
Bon, pensa l'ogier. Matt a dû me filer sous le nez et retourner au champ de Merilor.
Incapable de tenir en place ces humains. Dans le sud du champ de Merilor, assez loin des tas de cadavres, Matrim Coton arpentait le camp des Séanchaniens. Autour de lui, des sujets de l'Empire des deux sexes manquaient s'étrangler en le voyant.
« Le prince des corbeaux !»
De bouche en bouche, ces quatre mots faisaient le tour du camp, comme une bouteille de gnôle circule autour d'un feu par une nuit très froide. Matt avança vers Tuon, debout derrière une grande table de cartes et en pleine conversation avec Seleucia. Caredé, nota le jeune flambeur, avait survécu. Sans nul doute, il s'en sentait coupable. Tuon regarda son mari et plissa le front. Matt tendit un bras vers le ciel et Tuon se renfrogna, levant les yeux malgré elle. Pivotant pour prendre de l'élan, Matt fit comme s'il voulait propulser sa main au firmament. Au-dessus du camp, des fleurs nocturnes explosèrent et s'épanouirent. Matt sourit. Il avait dû convaincre Aludra, certes, mais pas plus que ça. Cette fille adorait faire exploser des trucs. Le ciel n'était pas encore vraiment noir, pourtant le spectacle valait le coup d'œil. Sous la supervision d'Aludra, devenue moins jalouse de ses secrets, une moitié des servants des dragons s'entraînaient à fabriquer des feux d'artifice et à manipuler de mystérieuses poudres.
« Des feux d'artifice ?»
s'enquit Tuon.
« Les plus beaux qu'on ait jamais vus dans ton pays ou dans le mien !»
assura Matt. Tuon ne répondit pas tout de suite, les explosions se reflétant dans ses yeux.
« J'attends un enfant !»
annonça-t-elle.
« Ma voyante mort le confirme !»
Matt sursauta comme si une fleur nocturne venait d'exploser dans son estomac. Un héritier, un fils sûrement. Enfin, quelle était la cote pour que ce soit un petit gars? Le jeune flambeur se força à sourire.
« Eh bien, me voilà libre à présent. Tu as un héritier. »«
C'est vrai, mais c'est moi qui suis libre. Si je veux, je peux te faire exécuter. »
Le sourire de Matt s'élargit.
« Eh bien, on verra ce qu'on pourra faire de tout ça. As-tu déjà joué au dé dans ta vie ?»
Assis au milieu des cadavres, Perrine lâcha enfin la bonde à ses larmes. Des Gaishine et des réfugiés allaient et venaient parmi les dépouilles. Aucune trace de Fail. Rien du tout.
« Je vais craquer. »
Perrine se demanda depuis quand il n'avait plus dormi. Eh bien, ça remontait à cette fameuse nuit, à Mayenne, et son corps se plaignait parce que ça n'avait pas suffi. Avant, il était resté l'équivalent de plusieurs semaines dans le rêve des loups, épuisant ses réserves d'énergie. Le seigneur et la dame Bachéré étaient morts. Si elle avait survécu, Fail aurait été reine. Tremblant, le jeune seigneur ne parvint pas à se forcer à bouger. Sur ce champ de bataille, il y avait des centaines de milliers de dépouilles. Les personnes chargées de les inspecter ignoraient encore en l'absence de signes de vie. Une croix pour signaler qu'on était passé et en route pour le prochain défunt. Il avait essayé de leur décrire Fail, mais ses secouristes, comme leur nom l'indiquait, étaient là pour les vivants. Alors que des fleurs nocturnes explosaient dans le ciel, Perrine se prit la tête à deux mains. Puis il se sentit glisser sur le côté et s'écroula parmi les morts. Moghedienne fit la grimace quand elle vit les explosions dans le ciel. Chacune lui faisait penser au déluge de feu qui s'était abattu sur ses chariens et elle. La lumière aveuglante, le vacarme, le moment de panique. Après, les ténèbres du néant. Elle s'était réveillée des heures plus tard, laissée pour morte au milieu des chariens. Ensuite, dans le champ de Merilor, elle avait dû subir les cris de joie des crétins qui pensaient avoir remporté la victoire.
pensais ?
Se dit-elle, alors que de nouvelles explosions retentissaient.
Le grand seigneur est tombé.
Tout était perdu. Non, non. L'élu continua à avancer d'un pas affirmé, la meilleure façon de ne pas éveiller les soupçons. Après avoir étranglé un travailleur, elle avait pris son apparence à l'aide d'un filament de saïdar qu'elle avait ensuite inversé. En principe, ce serait suffisant pour qu'elle puisse partir de là. Pinçant le nez contre la puanteur, Mogadienne contournait souplement des cadavres. Non, tout n'était pas perdu, puisqu'elle était vivante. Elle, une élue du grand seigneur. Ce qui signifiait, eh bien qu'elle était une impératrice au milieu de ses sujets. Cerise sur le gâteau, de nouveau emprisonnée, le grand seigneur ne pourrait pas la punir. Seconde cerise, la plupart des autres élus, sinon tous, avaient quitté ce monde ou croupissaient en prison. Si c'était vrai, personne ne pourrait rivaliser avec ses connaissances. Au fond, rien n'était perdu. Au contraire, il s'agissait peut-être d'une victoire. S'arrêtant près d'une charrette de ravitaillement renversée, Mogadienne contrôla son cours souvra. Il était toujours entier, par bonheur. Souriant aux anges, elle canalisa une petite boule lumineuse, histoire d'éclairer son chemin. Enfin, on voyait le ciel et plus l'ignoble masse de nuages noirs. Cette situation, l'élu pouvait la faire tourner à son avantage. Ainsi, en quelques années seulement, elle serait en position de diriger l'univers. Un objet froid se referma soudain autour de son cou. Levant les mains, Mogadienne cria de terreur.
« Non ! Non, pas encore !»
Son déguisement disparut et le pouvoir de l'unique l'abandonna. Une soule d'âme patibulaire se dressa sur son chemin.
« Nous n'avons pas le droit de rafler les femmes qui se nomment elles-mêmes des Aes Sedai. Toi, tu ne portes pas leur bague au serpent, et tu rôdes comme quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Je parie que tu ne manqueras à personne.
« Libère-moi !»
grinça Mogadienne en agrippant la dame.
« Libère-moi, espèce de... »
La souffrance envoya Mogadienne se tordre de douleur sur le sol.
« Je me nomme Shannan, »
dit la soule dame alors que plusieurs de ses collègues approchaient, une damane dans leur sillage.
« Mais tu peux m'appeler maîtresse. Bien, je crois qu'il est temps de retourner à Eboudar. »
Les autres soule dames acquiesçant, la damane ouvrit un portail. Il fallut porter Mogadienne pour la faire traverser. Près du mont Chayolgoul, Ninevé sortit de la tente hôpital. Le soleil, constata-t-elle, finissait de sombrer à l'horizon.
« Il est mort »,
annonça-t-elle à la petite foule massée dehors. Prononcer ces mots lui donna le sentiment de se laisser tomber une brique sur les pieds. Ayant versé toutes les larmes de son corps, elle ne pleurait pas, mais ça n'en était pas moins douloureux pour autant. L'âne sortit à son tour et lui passa un bras autour des épaules. Émue, elle lui prit la main. Non loin de là, Mine et Elaine se regardaient. Grégorine se pencha pour parler à l'oreille de Darline, qu'on avait retrouvée en piteux état dans les ruines de son poste de commandement. Ils observaient les deux femmes, l'air désapprobateur. Ninevé entendit la fin du commentaire de Grégorine.
On pouvait s'y attendre de la part de Layel. Ces sauvages n'ont pas de cœur. Et peut-être de la reine d'Andorre, mais la troisième, pas une larme. Elles sont sous le choc,
avança Darline.
Non, pensa Ninevé, en étudiant Mine et Elaine. Ces deux-là savent quelque chose que j'ignore.
Attends-moi là,
dit-elle à l'âne en s'écartant de lui. Il lui emboîta le pas. L'ancienne sage-dame le foudroya du regard.
« Dans les semaines à venir, tu ne te débarrasseras pas de moi, Ninevé, »
dit le roi du Malkier, des flots d'amour se déversant du lien.
« Même si tu le désires. »«
Espèce de tête de pioche !»
grogna Ninevé.
« Si je me souviens bien, c'est toi qui as insisté pour me laisser et marcher vers ta prétendue destinée. »«
Tu avais raison sur ce sujet, »
admit l'âne,
« comme souvent. »
Une provocation lancée sur un ton si serein qu'on ne pouvait pas s'énerver. De toute façon, Ninevé était déjà furieuse contre les trois. Elle fondit d'abord sur Avienda, l'âne à ses côtés.
« Avec la mort de Rouark, »
disait la jeune Aiel à Soriléa et à Beyre.
« Je pense que tout ce que j'ai vu est susceptible de changer. En fait, c'est déjà commencé. »
J'ai découvert ta vision, Avienda, dit Beir. Ou du moins, quelque chose de semblable vu par des yeux différents. Selon moi, c'est un avertissement contre quelque chose que nous ne devons pas laisser arriver.
Les deux autres matriarches acquiescèrent. Puis elles avisèrent Ninevée, et leur visage se ferma comme celui d'une Aes Sedai. Avienda ne fut pas en reste. D'un calme inébranlable, alors qu'elle trônait sur sa chaise, les pieds enveloppés de bandages. Un jour, elle remarcherait peut-être, mais elle ne combattrait plus jamais.
« Ninevée Almehara, »
fit-elle.
« M'as-tu entendu annoncer la mort de Rand ? Il est parti sans un mot. Celui qui était blessé s'est réveillé du rêve, »
dit sereinement Avienda.
« Tous, nous devons le faire un jour. Sa fin fut auréolée de gloire, et sa mémoire sera célébrée dans la grandeur. »
Ninevée se pencha vers la jeune matriarche.
« Bon, assez d'âneries, »
dit-elle en s'unissant à la source.
« Crache le morceau ! Je t'ai choisi parce que tu ne peux pas fuir !»
Un instant, Avienda sembla effrayée, mais ce fut très fugitif.
« Préparons son bûcher funéraire. »
Perrine courait dans le rêve des loups, seule. D'autres loups hurlaient à la mort pour exprimer leur tristesse de le voir si chagriné. Dès qu'ils les dépassaient, ils recommençaient à fêter la victoire, mais ça n'enlevait rien à leur empathie. Perrine ne hurla pas et il ne pleura pas non plus. Il devint jeune taureau et il courut. Il n'avait pas envie d'être là. Dormir, voilà ce qu'il désirait. Dormir et ne plus sentir la douleur. Dans le rêve des loups, elle lui poignardait le cœur.
« Je n'aurais pas dû la laisser. »
Une idée de deux pattes. Que fichait-elle dans l'esprit d'un loup ?
« Mais qu'aurais-je pu faire ? J'avais promis de ne pas la traiter comme un bibelot fragile. »
Courir, 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 jusqu'à en tomber d'épuisement.
« Je devais rejoindre Rand. Il le fallait. Mais en agissant ainsi, je l'ai trahi. »
En un éclair, Perrine se décala à deux rivières. Puis il retourna près de la rivière Mora, fila dans le désert des Aiel, en revint, et se lança dans un long bond en direction de Falme.
« Je devais les protéger tous les deux, mais comme c'était impossible, j'en ai abandonné un. »
Un saut à Théard, puis à Champ des Mondes, à une vitesse folle, au point de ne plus rien voir autour de lui. Ici, il avait épousé Feil. Ici, il hurla à la mort. Kemlin, Kairienne, les puits de Doumaï. Là, il avait sauvé l'un des deux. Kairienne, Géaldan, Malden. Là, il avait secouru l'autre. Les deux forces de sa vie, chacune l'attirant vers elle. Vidé de ses forces, jeune taureau finit par s'écrouler non loin d'une série de collines, en Andorre. Un lieu familier.
Celui où j'ai rencontré Elias.
Jeune taureau redevint Perrine à Ibarra. Ses pensées et ses angoisses n'étaient pas celles d'un loup. Du coin de l'œil, le jeune seigneur regarda le ciel, vide de nuages depuis le sacrifice de Rand. Il avait voulu être avec son ami au moment de sa mort. Là, il désirait être à l'endroit où Feil avait quitté ce monde. Il désirait crier, mais ça n'aurait servi à rien.
« Je dois laisser tomber, c'est ça ? »
murmura-t-il à l'intention du ciel.
« Mais je ne veux pas. J'ai appris ! À cause de Malden, j'ai appris. Je ne le referai pas. Cette fois, j'ai agi comme il le fallait. »
Quelque part, un oiseau cria dans le ciel. Des loups rugirent, excités par la chasse.
« J'ai appris. »
Un cri, oui. On eût dit celui d'un faucon. Perrine se releva d'un bond et pivota sur lui-même, sondant le ciel.
« Oui, là !»
L'oiseau se volatilisa, puis réapparut au-dessus d'un grand champ que le jeune homme ne reconnut pas. Mais si, enfin, c'était Merilor, mais avant le massacre. Pas de sang, pas de boue rouge en guise de sol, rien de brûlé ni de brisé. Dans ce champ, il trouva un faucon, pas plus grand que sa main, qui pleurait en silence, une aile brisée coincée sous un rocher. Son cœur battait si faiblement. Perrine sortit du rêve des loups à la force des poignets et rugit en se réveillant. Se redressant, il hurla à la mort en direction de la lune. Autour de lui, les secouristes s'éparpillèrent, terrorisés. Où, dans l'obscurité, pouvait-il trouver l'endroit ?
Il courut, trébucha sur des cadavres et tomba plus d'une fois dans des trous laissés par le pouvoir ou par des dragons. Il s'immobilisa, regardant à droite et à gauche.
Où ? Là !
L'odeur florale d'un savon, l'ombre d'un parfum. Perrine prit de l'élan et percuta de tout son poids la charogne d'un énorme trolloque qui gisait sur d'autres dépouilles. Tout à fait dessous, il découvrit le cadavre d'un cheval. Dans un état qui ne lui permettait plus de réfléchir à ce qu'il faisait, ni de mesurer la force dont il allait avoir besoin, il réussit à écarter l'équidé. Fail était là, dans une dépression du sol, ensanglantée mais encore vivante, même si sa respiration était très superficielle. Se jetant à genoux, Perrine la prit dans ses bras et s'enivra de son odeur. Il lui fallut 2 secondes pour se décaler dans le rêve des loups, filer jusqu'au pied du mont Chagulgul, revenir dans le monde réel et amener Fail à Nineveh. Pendant que la sœur la guérissait, il ne lâcha pas son épouse. Fail, son faucon, trembla puis bougea un peu. Puis elle ouvrit les yeux et lui sourit. Les autres héros partis, Birgit s'attardait alors que le soir tombait. Non loin de là, des soldats préparaient le bûcher funéraire de Randaltor. L'archère ne pourrait pas rester beaucoup plus longtemps, mais pour l'heure, eh bien, ça irait. Si ça ne durait pas trop, la trame l'autoriserait.
« Elaine, tu sais quelque chose au sujet du dragon ?»
demanda-t-elle. Elaine haussa les épaules. Les deux femmes se tenaient au dernier rang de la foule venue voir s'embraser le bûcher du dragon réincarné.
« Elaine, je sais ce que tu prépares avec le corps. »«
Et qu'est-ce que je prépare ?»«
Tu veux le garder, et le gamin avec. » L'instrument, tu prévois d'en faire un trésor national, ou peut-être une arme pour le salut d'Andorre.
C'est possible.
Birgit eut un petit sourire.
Dans ce cas, j'ai bien fait de renvoyer le petit.
Oubliant le bûcher, Elaine se tourna vers Birgit.
Quoi ?
J'ai envoyé Olver dans un lieu sûr, avec des gardes de confiance. Je lui ai dit de trouver un endroit où personne n'irait chercher, et qu'il pourrait oublier, et de jeter le corps dedans. À un océan, par exemple.
Elaine soupira et se tourna vers le bûcher.
Insupportable, bonne femme !
Elle hésita un peu.
Merci de m'avoir épargné d'avoir à prendre cette décision. J'ai deviné que tu verrais les choses comme ça.
En réalité, Birgit avait pensé que la jeune reine aurait besoin de beaucoup de temps pour comprendre. Mais Elaine avait grandi très vite ces dernières semaines.
Quant à être insupportable, eh bien, depuis quelques mois, il semble que tu n'aies eu aucune difficulté à me supporter.
Elaine se tourna de nouveau.
On dirait que c'est un adieu.
Birgit sourit. Parfois, quand ça se produisait, elle sentait que c'était imminent.
Oui, c'en est un.
Elaine se rembrunit.
Doit-il en être ainsi ? Elaine, je vais renaître, c'est imminent. Quelque part, une femme est sur le point d'accoucher, et je serai aspiré par le corps de sa fille. C'est imminent, te dis-je. Je ne veux pas te perdre.
L'archère eut un petit rire.
Qui sait, nous nous reverrons peut-être. En attendant, réjouis-toi pour moi. Le cycle continue et je serai de nouveau avec Gaïdal. Simplement, il aura quelques années de moins que moi.
Des larmes aux yeux, Elaine prit le bras de son amie.
Amour et paix, Birgit. Et merci.
L'archère sourit, puis elle ferma les yeux et se laissa emporter. Alors que le soir tombait, Tam Altor regardait l'endroit qui, naguère, était le plus terrifiant du monde. Le mont Chagulgul. Désormais, des végétaux y poussaient entre les armes abandonnées et les cadavres, des fleurs égayant un décor pourtant sinistre.
« C'est le cadeau que tu nous fais, fils. Le dernier. »
Tam embrasa sa torche à la petite flamme vacillante qui brûlait dans une fosse à feu miniature. Puis il avança, dépassant les rangées de combattants qui attendaient dans la pénombre. Peu de gens étaient informés que Rand serait incinéré ce soir. Sinon, tout le monde aurait voulu venir. Au fond, tous les braves présents ici avaient peut-être mérité d'en être. Mais contrairement aux Aes Sedai qui préparaient une cérémonie grandiose pour Egwen, Tam préférait quelque chose de plus intime pour son petit. Rand allait enfin pouvoir se reposer. La tête baissée, les gens ne portaient pas de lumière, à part Tam. Ils attendaient dans le noir. Quelques 200 personnes debout en cercle autour de la bière. À la lueur de sa torche, Tam aperçut des visages solennels. À la chiche lueur de sa torche, il eut du mal à distinguer les Aes Sedai des Aiel et les gardes de rivière des défenseurs de la pierre. Fondu dans la nuit, ses âmes purent saluer une dernière fois l'enveloppe charnelle du dragon réincarné. Tam avança jusqu'à la bière, où Tom et Moiraine attendaient, se tenant la main. La sœur tendit un bras et serra tendrement le bras du père de Rand. À la lueur de sa torche, celui-ci regarda un long moment le visage de marbre de son fils.
« Tu t'en es bien sorti, mon gars.
Oui, rudement bien. »
Sans essuyer les larmes qui perlaient à ses paupières, Tam embrasa le bûcher. Au premier rang de la foule, Min regarda Tam, les épaules voûtées, inclinait la tête devant les flammes. Après un long moment, il recula et alla rejoindre les gardes de rivière. Abel Cotton lui donna la collade et lui murmura quelques mots à l'oreille. Dans l'obscurité, des têtes se tournèrent vers Min, Avienda et Elaine. Comme si les gens attendaient quelque chose d'elle. Une sorte de spectacle, peut-être. Très lentement, Min avança avec ses deux compagnes. En principe, Avienda avait besoin de deux promises pour l'aider à marcher, mais elle réussit à tenir debout en s'appuyant sur Elaine. Du coup, les guerrières se retirèrent pour laisser les trois seuls devant les flammes qui consumaient le corps de Rand.
« J'ai vu cette scène, »
dit Min.
« Le jour de ma rencontre avec Rand, j'ai su que ce jour viendrait. Nous trois, ensemble, ici. »
« Parfait, mais... et maintenant ?»
demanda Elaine.
« Maintenant, »
dit Avienda,
« on fait en sorte que tout le monde soit convaincu qu'il n'est plus de ce monde. »
Min hocha la tête. Dans un coin de son esprit, elle sentait pulser le lien, de plus en plus vigoureux, à chaque seconde. Rand Altor, seul dans sa tête désormais, se réveilla sous une tente obscure. Personne à son chevet. Mais quelqu'un avait laissé brûler une bougie près de sa civière. Il inspira profondément et s'étira. Comme après une bonne nuit de sommeil, en somme. N'aurait-il pas dû souffrir, se sentir raide, mal dans sa peau? Il n'éprouvait rien de tout ça. Palpant son flanc, il n'y trouva aucune blessure, pas de cicatrice. Et pour la première fois depuis longtemps, pas de douleur. Un instant, il se demanda que penser de tout ça. Puis il s'avisa que la main gauche qui lui palpait le flanc était entière. Sa main. Éclatant de rire, il la porta devant ses yeux.
« Un miroir, il me faut un miroir !»
Il en trouva un dans le compartiment qui jouxtait le sien. À première vue, on l'avait laissé absolument seul. Levant sa bougie, il se regarda dans la petite glace et découvrit le visage de Moridine. Rand explora ses nouveaux traits avec ses doigts, puis, dans le miroir, il remarqua un unique Saa. En forme de croc de dragon, cette marque ne bougeait pas. De retour dans son compartiment, Rand nota que l'épée de Laman était là, posée sur une pile de vêtements différents et soigneusement pliée. Apparemment, Alivia n'avait pas deviné ce qu'il aurait envie de porter. Car c'était elle qui lui avait laissé tout ça, avec en sus une bourse pleine de pièces de toutes les nations. Les habits et l'argent ne l'intéressaient pas beaucoup, mais elle avait conscience qu'il en aurait besoin. Elle t'aidera à mourir. Rand secoua la tête, s'habilla, prit l'épée et les pièces et sortit de la tente. Un cheval l'attendait, un hongre tacheté, attaché non loin de là. Voilà qui lui allait très bien. De dragon réincarné à voleur de chevaux. De quoi sourire encore. L'absence de sel ne le dérangea pas vraiment. Un instant, le jeune homme hésita. Dans l'obscurité, des gens chantaient pas très loin de lui. Il était dans la vallée de Takandar, mais pas tel qu'il s'en souvenait. Ici, tout bourgeonnait, même le mont Chayolgoul. La chanson était un hymne funèbre des terres frontalières. Tenant sa monture par la bride, Rand approcha et, entre les tentes, vit les trois femmes qui se tenaient devant un bûcher funéraire. « Moridine, » pensa-t-il, « incinérée avec tous les honneurs, sous l'identité du dragon réincarné. » Rand recula, puis enfourcha le hongre tacheté. Ce faisant, il remarqua une silhouette qui ne se tenait pas près des flammes. Une personne qui regardait dans sa direction, alors que tous les autres yeux étaient rivés sur le bûcher. Katswane. Ses yeux reflétant la lueur des flammes, elle inspecta Rand de la tête aux pieds. Après l'avoir salué de la tête,
Il attendit quelques secondes, puis talonna sa monture et s'éloigna. Katsuane regarda disparaître le cavalier.
« Très étrange, »
songea-t-elle. Les yeux du jeune homme avaient confirmé ses soupçons, donc elle n'avait pas besoin d'assister aux fausses funérailles. Traversant le camp, elle se jeta tête baissée dans une embuscade.
« Saïrine, »
dit-elle alors que des femmes l'entouraient.
« Yukiri, Lirel, Rubinde, qu'est-ce que ça veut dire ?»«
Nous avons besoin d'être guidés, »
souffla Rubinde.
« Guidés ? Demandez à la nouvelle chère d'Amirline, les filles, quand vous aurez trouvé une victime à nommer. »
Les quatre femmes continuèrent à entourer Katsuane. Une idée lui traversant l'esprit, elle s'arrêta net de marcher.
« Par le sang et les cendres, non !»
s'écria-t-elle.
« Non, non et non !»
Les quatre sœurs eurent un sourire de prédatrice.
« Ô dragon réincarné, tu tenais de si jolis discours sur la notion de responsabilité, »
fit Yukiri.
« Et tu as dit 100 fois que les sœurs de cet âge ont besoin d'une meilleure formation, »
ajouta Saïrine.
« De ce nouvel âge, »
corrigea Lirel.
« Beaucoup de défis nous attendent. Comme guide, il nous faudra une chair d'Amirline très puissante. »
Katsuane ferma les yeux et gémit. Alors qu'il laissait Katsuane derrière lui, Rand soupira de soulagement. La légende n'avait pas donné l'alerte, bien qu'elle eût continué de le fixer jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible. Son regard, il l'avait senti peser dans son dos. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, il vit que la redoutable sœur s'éloignait en compagnie d'autres Aes Sedai. Cette femme l'inquiétait. Sans nul doute, elle soupçonnait quelque chose. Très ennuyeux, ça. Mais moins que si elle avait crié ses doutes sur tous les toits. Plongeant une main dans sa poche, Rand y trouva une pipe. « Merci de cette attention, Olivia, » pensa-t-il, en bourrant la bouffarde avec le tabac d'une blague glissée dans son autre poche. D'instinct, il voulut utiliser le pouvoir de l'unique pour allumer sa pipe. Il n'obtint aucun résultat. Pas de Saïdine dans le vide, le néant complet. Il inspira à fond, puis sourit, submergé par un formidable soulagement. Il n'était plus capable de canaliser. Par acquis de conscience, il essaya le vrai pouvoir. Rien non plus. Tout en gravissant une petite pente, sur le flanc de la vallée désormais luxuriante, il baissa les yeux sur sa pipe. Aucun moyen d'embraser le tabac. Pensif, il étudia un moment la bouffarde et imagina qu'elle était allumée. Aussitôt, le tabac rougeoya. Souriant, Rand prit la direction du sud, puis il regarda derrière lui. Les trois femmes debout devant le bûcher venaient de tourner la tête vers lui. Il les distinguait, certes, grâce à la lueur des flammes, mais pas assez pour voir leur expression. « Je me demande laquelle me suivra, » pensa-t-il, son sourire s'élargissant. « Randaltor, à force, tu as fini par attraper la grosse tête. Rien ne dit que l'une d'elles, ou davantage, te suivra. » Et si aucune ne venait, ou si elles venaient toutes, chacune au moment qu'elle aurait décidé? Rand eut un petit rire. Laquelle choisirait-il? Mine? Mais comment renoncer à Avienda ou à Elaine? Non, il ne pourrait pas trancher. Trois femmes l'aimaient, et il ignorait par laquelle il voulait être rejoint. Eh bien, n'importe laquelle, en fait. Ou toutes les trois. Par la lumière, mon gars. Tu es un cas désespéré. Amoureux fou des trois, sans aucune porte de sortie. Rand fit passer sa monture au trot. En route vers le sud, il possédait une bonne monture, une bourse pansue et une magnifique épée. Celle de Laman, qui dépassait de loin ses rêves les plus fous en matière d'armes. C'était même trop, car une lame marquée du héron risquait d'attirer l'attention sur lui. Olivia avait-elle conscience de lui avoir donné une fortune? Probablement pas, car elle ignorait tout de l'argent. Comme elle avait sans doute dérobé ses pièces, Rand n'était plus seulement un voleur de chevaux. Mais il lui avait demandé de l'or, et elle avait fait ce qu'il fallait. Du coup, il avait de quoi s'acheter une énorme ferme à deux rivières. Le sud. L'est ou l'ouest aurait convenu, mais il voulait surtout filer le plus loin possible des lieux de ses exploits. D'abord au sud, puis peut-être vers l'ouest en longeant la côte. Qui sait, il trouverait peut-être un navire. Il lui restait tant de choses à voir dans le monde. Contraint de participer à quelques batailles,
il avait aussi été impliqué dans un gigantesque jeu des maisons. Bref, des choses qui ne l'avaient jamais intéressé. À part ça, il connaissait la ferme de son père et des palais. Beaucoup de palais. Une infime partie du monde, en somme, et il lui restait des centaines de merveilles à découvrir. Ça me changera un peu. Voyager sans être poursuivi, ni avoir besoin de régner partout où il passait. Voyager en ayant la possibilité de dormir dans une étable, le gîte payé en débitant du bois de chauffe. En fumant son improbable pipe, Rand continua à avancer vers le sud et à imaginer toutes les joies de sa nouvelle vie. Alors, autour de l'homme qu'on avait appelé le dragon réincarné, en lui donnant du seigneur, puis du roi, ou en le traitant de tueur, d'amoureux ou d'ami, un vent se leva. Soufflant très haut dans le ciel désormais sans nuages, ce vent, libre comme l'air, balaya un paysage calciné, jonché de cadavres qu'on n'avait pas encore eu le temps d'enterrer. Mais un paysage, en même temps, où d'innombrables âmes célébraient leur victoire. En passant, ce vent faisait trembler les branches des arbres, enfin autorisés à se lester de bourgeons. Après, ils continuaient vers le sud, à travers des forêts aux troncs noueux serrés les uns contre les autres, au-dessus de plaines chatoyantes et en direction de terres encore inconnues. Ce vent n'avait rien de la fin, car il n'y aura jamais aucune fin à la rotation de la roue du temps. Mais c'était une fin. Exergue. Et il advint en ces temps-là, comme il était déjà arrivé avant et comme cela se produirait après, que les ténèbres s'étendirent sur les terres et écrasèrent le cœur de l'humanité. Alors, tout ce qui poussait se flétrit et l'espoir mourut. S'adressant au Créateur, les hommes et les femmes implorèrent « Lumière des cieux et du monde, fais que le promis naisse du pic, comme l'annoncent les prophéties, puisqu'il en fut ainsi dans les âges passés et qu'il en ira de même dans ceux qui restent à venir. Fais que le prince du matin chante, afin que tout ce qui pousse reprenne vigueur, et que les vallées, à partir de ce jour, regorgent d'agneaux. Fais que le bras du Seigneur de l'aube nous protège des ténèbres, et que la grande épée de la justice nous défende. Ainsi, le dragon volera de nouveau sur les courants du temps. » Extrait de Charaldrianan Te Calamon. Le cycle du dragon, auteur inconnu, 4e âge. Il vint comme le vent toucha tout ce qui pouvait l'être, puis il s'en fut comme le vent. Extrait du dragon réincarné, par Loyal, fils d'Arendt, fils de Alan, 4e âge. Vous venez d'écouter La roue du temps, tome 14, Un souvenir de lumière, de Robert Jordan et Brandon Sanderson. Traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet. Lu par Arnaud Leridan. Une production Audible Studio.